Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'équipe est sauvage. 2 heures d'humour et de découverte, 50% de journalisme, 50% de divertissement et surtout, en ce jour de résultats d'audience, 0% d'autocongratulation. Vous connaissez ma modestie, ma légendaire humilité qui n'a d'égal que celle de l'agent bonisseur de la batte dans OSS 117.
Vous êtes le meilleur. Oui, enfin, le meilleur. C'est pas à moi de le dire, déjà.
Je peux vous rassurer, j'ai passé des consignes très claires afin d'éviter tout débordement égotique aujourd'hui. Alors oui, nos audiences progressent nettement. Je vous en remercie d'ailleurs, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes 96 000 de plus à nous écouter par rapport à l'année dernière. 478 000 en tout, en moyenne. Alors oui, ça fait plaisir. De là à prétendre, comme certains journalistes malveillants, que j'aurais passé la matinée à parader dans la rédaction d'Europe 1 en hurlant
« Je suis le maître du monde !»
Je vous en prie, soyons sérieux. Je ne l'ai pas fait toute la matinée, juste 45 minutes. Alors, ce soir, avec mes camarades de l'équipe Et Sauvage et tous les invités qui ont déjà marqué l'histoire courte mais intense de notre émission, on va peut-être faire la chouille dans un bar de Pigalle. Et oui, Cadmerade finira certainement dans un piteux état à chanter
Décalé Qatar, décalé Qatar. Oh, et oh.
Oui, Eva Roche, elle n'arrivera même pas à articuler Dagadigadam. Bonjour Eva.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde à la télé ou sur les écrans ce soir. Mais d'abord, c'est le destin qui l'a voulu.
Oui,
quand c'est le destin qui a voulu quelque chose, je fous bac. Puisqu'en ce jour si gai pour Europe 1 et pour notre émission, hasard émouvant du calendrier, nous recevons notre parrain. Puisque mesdames et messieurs, en juillet dernier, c'est lui qui a accepté de prendre sur son temps pour participer au pilote, l'émission zéro de notre émission. Quelle joie d'accueillir pour une vraie émission qui cette fois sera diffusée, l'auteur David Fuenquinos. Bonjour David.
Bonjour, merci et bravo.
Folie dans ce studio.
C'est la remontada.
Alors quand vous avez participé à notre pilote l'été dernier, je me posais la question, maintenant vous pouvez le dire parce que c'est loin. Est-ce que vous êtes sorti de là en vous disant, eh ben ils sont mal barrés les tocards?
Ouais, je me suis dit c'est mal barré quoi. Là je suis assez surpris, je dois avouer quoi.
Alors mon cher David, votre actualité est chargée avec pas moins de 2 pièces de théâtre qui vont arriver, dont une 10 ans après, dès le 21 janvier. On va évidemment en parler durant ces 2 heures, mais d'abord je vous présente les forces en présence. À ma gauche, Dieu que l'érotomanie est une maladie insidieuse. À première vue, Anne Le Gall est une jeune femme parfaitement équilibrée et saine d'esprit. Hélas, elle est souvent persuadée qu'entre elle et l'invité, il y a quelque chose. Surtout quand l'invité est jeune, beau et écrivain.
Ah ouais.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous j'aime bien ce Ah ouais.
Oui, c'est le nouveau Ah ouais.
Ah oui.
Exactement.
Ah mais ça vaut pas c'est... celui des Verrons.
Oui, mais c'est le nouveau Ah ouais.
Ah oui, c'est très très bien.
Anne Le Gall qui ressortira souvent. Vous êtes l'expert environnement d'Europe 1 et aujourd'hui, vous nous parlez d'une catégorie d'animaux, hélas, en perpétuelle augmentation. Les espèces disparues.
Voilà, et je vais notamment vous parler du poisson spatule ou de l'espadon chinois. Un poisson qu'on ne verra plus malheureusement qu'en photo ou qu'en gravure, puisque c'est la première espèce déclarée disparue en 2020.
Et vous allez nous expliquer à partir de quand une
Exactement.
Espèce est déclarée disparue,
comment
etc.
Comment on classifie qu'un animal disparaît.
À ses côtés, David Fuenquinos, un chroniqueur content d'être là, mais moins qu'hier. Puisqu'en effet, dans l'histoire de l'équipe sauvage, cette compétition entre les journalistes d'Europe 1 à l'issue de laquelle l'invité vote pour son chroniqueur préféré, on avait rarement vu stratégie si offensive, pour ne pas dire kamikaze, puisqu'hier, Anissé a tout simplement dragué l'invité, en l'occurrence Sandrine Bonner, et non seulement dragué, mais dragué d'emblée en entrant dans le studio, comme le prouve cet enregistrement. Virginie, bonjour. Bonjour Anissé.
J'étais amoureux de vous quand.
Oui, bon, calme-toi, non, c'est sympa.
Pourquoi vous parlez au passé?
Parce que maintenant je suis marié, j'ai des enfants.
Oh merde.
Oh merde. Et oui, Sandrine Bonner, loin de s'offusquer, mordait goulûment à l'hameçon. C'est le début d'une idylle sur laquelle nous allons amplement revenir aujourd'hui.
Non, mais bon, non, Anissé, non, pas
moi. Ah, si. Anissé, vous êtes là parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, votre femme nous écoute. Elle a été prévue. Aujourd'hui, vous allez bosser un peu quand même, Anissé.
Oui, très
vous nous,
sérieux.
Vous nous parlez des télés du futur.
Oui, on a eu l'époque des tubes catholiques bombés et puis en ce moment on est dans celle des écrans plats, et bien une nouvelle génération de télé est en train de se préparer, sans bordure, transparente, holographique, et je vais vous raconter tout ça.
On a hâte, Anissé, de voir comment les télés peuvent encore s'améliorer. Les grandes lignes de l'émission sont tracées, l'équipe est sauvage, peut démarrer.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc l'écrivain, cinéaste et auteur de théâtre David Fuenquinos qui nous accompagne cet après-midi. Rentrée théâtrale chargée, on le disait pour vous David, 2 pièces à venir. On va commencer par celle qui démarre le 21 janvier au Théâtre de Paris. Alors je vous conseille d'aller voir 10 ans après, pièce que vous avez écrite, interprétée par Julien Boisselier, Mélanie Page et l'ami Bruno Solo. Difficile de résumer la pièce sans trop en dévoiler, Eva, je sais pas ce que vous en pensez.
C'est compliqué.
Disons qu'il s'agit d'un triangle amoureux et disons qu'il vaut mieux pas présenter un vieil ami à sa femme.
Et il faut surtout pas un ami écrivain.
Voilà, il y a une sorte de rivalité entre un assureur et un écrivain. Mais moi, je suis assez team assureur, finalement, joué par Bruno Solo. J'aime bien. L'écrivain en prend plein la tête.
Est-ce qu'il y a une part d'autobiographie dans cette pièce, le côté écrivain
Alors
un petit peu,
là,
est-ce que c'est un
je ne sais pas où on peut dénicher une part autobiographique, surtout dans le rapport aux femmes dans cette pièce-là. Mais on met toujours un peu de soi dans tous les personnages. Mais ils sont quand même très très barrés, j'espère vraiment pas leur ressembler quoi.
Mais pour parler très franchement, David Fuenkinos, il y a cette dichotomie dans la pièce, l'assureur d'un côté, l'écrivain de l'autre, deux statuts différents qui engendrent des réactions différentes pour, vis-à-vis des femmes en tout cas. Est-ce que dans la vie, être écrivain, pour pécho des meufs en gros, très clairement, est-ce que c'est mieux
Alors
d'être
là, je m'attendais pas du tout à cette
parce que
non, non, mon assureur a une très très bonne vie, je crois, à ce niveau-là. Non, non, je sais pas, je peux pas faire cette généralité-là. Mais c'est vrai qu'elle, elle est un peu, au début, elle est avec son assureur. Et puis elle rencontre le meilleur ami qui est écrivain, qui est un peu dramatique, ici de Chateaubriand.
Bah oui, tout de suite, ça fait un peu rêver, quoi.
Et donc c'est vrai qu'elle tombe un petit peu dans le panneau avant de se rendre compte que tout écrivain est une véritable arnaque.
C'est bien que vous le disiez. 10 ans après, sa pièce avec Mélanie Page, Bruno Solo et Julien Boisselier démarre le 21 janvier au Théâtre de Paris. David Fuenkinos est avec nous cet après-midi.
Europe 1.
À suivre, à partir de quand une espèce animale est-elle déclarée disparue ? À quel rythme les espèces disparaissent-elles ? Autant de questions que vous ne vous êtes jamais posées, mais auxquelles va quand même répondre Anne Le Gall, notre première concurrente du jour. Est-ce que ça sera aussi chaud entre elle et David Fuenkinos qu'entre Anissé Mbida et Sandrine Bonnerrière ? Ça va être difficile. Il faut dire que tous les journalistes tentent un petit peu de séduire l'invité chaque jour, vu qu'il y a un vote à la fin. Mais là, c'était un cri du cœur. Et Anissé est allée droit au but en disant tout simplement qu'il était amoureux de Sandrine Bonnerrière.
Figurez-vous que c'est moi qui suis tombée amoureuse de lui, là. Il est gros comme un dieu.
Je vais prendre son 06.
Je pensais créer un programme radicalement nouveau. Je me retrouve aux commandes de Tourner Manège.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
C'est dans une atmosphère encore plus festive que d'habitude que nous vous accueillons, chers auditeurs, puisqu'en effet, les audiences sont tombées ce matin. Vous êtes 96 000 de plus par rapport à l'année dernière à nous écouter. L'occasion idéale pour écouter une petite version midi de la compagnie créole, visiblement, d'après notre réalisateur. Comme quoi, le coup de pression que nous avait mis Patrick Timsit en début de saison a porté ses fruits. Il nous avait dit, grosso modo, qu'il fallait se mettre au travail.
Au lieu de se branler à la machine à café.
Eh ben, toi, Patrick, on l'a fait. Chaque jour, vous êtes désormais 478 000 à nous écouter, à écouter la première compétition journalistique de France. 4 journalistes, une couronne, toujours aussi pourrie, malgré les bonnes audiences. Un seul sera élu chroniqueur du jour. Vous votez via Twitter, sachant que la voix de notre invité d'honneur comptera triple. Aujourd'hui, c'est le boss du théâtre français qui nous accompagne, le Don Corleone des planches, David Fuenkinos. Deux de vos pièces arrivent à Paris, Amis en mars avec Cadmerade, et dès le 21 janvier, on le disait, 10 ans après, au théâtre de Paris avec Mélanie Page, Bruno Solo et Julien Boisselier. On continue d'en parler, mais le moment est venu, David, d'écouter notre premier concurrent du jour. Anne Le Gall, vous avez un truc à dire à David avant de démarrer, histoire de le mettre dans des dispositions favorables ?
Bisous, bisous !
Super ! Alors, c'est à vous. Anne, vous nous parlez des espèces disparues qui sont malheureusement de plus en plus nombreuses.
Voilà, je vais un petit peu casser l'ambiance là, mais ça nous aide à garder un peu la tête froide. Je vais vous parler du premier animal qui rejoint le catalogue des espèces disparues en 2020. C'est lui. Je vous le montre sur europe1.fr. Donc c'est le plus gros poisson d'eau douce du monde, il peut mesurer jusqu'à 7 mètres. C'est l'espadon chinois ou le poisson spatule en raison de la forme de sa tête. Voilà,
il y a
vous avez...
des espadons d'eau douce enfin...
Voilà,
il y avait des espadons d'eau douce.
Et donc, il a un rostre, en fait, une tête très allongée en forme d'épée. Et c'est la première espèce disparue selon une étude publiée dans Science of Total Environment.
Vous avez réussi accent. À le dire et rien que pour ça, vous méritez un point.
Il a disparu et pourtant il vivait sur Terre depuis plus de 200 millions d'années. Depuis au moins 200 millions d'années. Il vivait en Chine, dans le fleuve Yangtze, qui est le troisième fleuve le plus grand du monde. Il a connu les dinosaures. Il a côtoyé les monstres marins, les reptiles marins sans se faire croquer. Il a survécu aux différentes extinctions de masse. Il a survécu aux périodes glaciaires. Mais il s'est éteint à cause de l'activité humaine. Et notamment à cause de la surpêche et de la construction des barrages. Barrages qui ont été construits notamment à partir des années 80 et barrages qui empêchaient ce poisson de remonter pour se reproduire et de redescendre pour se nourrir. Donc il ne se reproduisait plus depuis 1993 et donc il a disparu. Et
comment peut-on être sûr, Anne, car moi vous me connaissez, je suis résolument
oui,
optimiste. Comment peut-on être sûr
qu'il
n'y en a pas un petit,
oui,
un petit espadon qui
alors,
se cache sous un rocher
pierre, oui.
Alors on n'est pas sûr qu'il n'y a pas un petit qui
un
se
petit
cache
bébé.
Derrière un rocher. En fait, la dernière fois qu'on a vu cette espèce espèce vivante, c'était en 2003. Et quand on se base sur des modèles de mathématiques, sur des modèles statistiques basés sur la taille des différentes populations au fil des ans, l'espérance de vie, le cycle de reproduction, eh bien, les chercheurs concluent que désormais cette espèce est éteinte. C'est très triste, estime l'un des auteurs de l'étude. C'est le premier des grands poissons d'eau douce qui s'éteint et il n'y a aucune chance de le voir se rétablir. Et
est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces qui s'éteignent comme ça chaque année ?
Alors, c'est assez impressionnant. Selon la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, il y a entre 500 000 et 1 million d'espèces qui sont aujourd'hui menacées sur Terre. Sur un total, je vous rappelle, de 9 millions au moins. On n'a pas tout encore répertorié, mais on estime qu'il y a 9 millions d'espèces sur Terre. Et donc, ce sont essentiellement les transformations de l'environnement par l'homme qui sont responsables de cette pression sur la biodiversité. C'est pour dire l'urgence qu'il y a à se préoccuper d'un plus juste équilibre entre la nature et l'homme.
David Fuenkinos, dans vos livres, vous dépeignez magnifiquement l'âme humaine, les relations humaines. Est-ce que vous vous intéresserez un jour, dans un prochain roman, par exemple, aux animaux? Je sais pas, je pense à Sylvain Tesson qui fait des bouquins là-dessus, La Panthère des Neiges. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse?
Je ne suis pas très fauniflore.
Non,
je suis plutôt relations humaines et bâtiments. Mais par contre, je trouve ça très très fort, quoi. Ce que vous racontez, c'est affligeant, quoi. Surtout l'idée de se dire que c'est un poisson qui a connu les dinosaures, qui a connu toutes les époques de l'humanité,
et
pratiquement.
Que nous,
on a survécu 200 millions d'années. C'est terrible. À l'homme.
En tout cas, merci Anne Le Gall, belle chronique. Anissé, vous aurez fort à faire pour espérer l'emporter face à Anne. Je vous laisse vous préparer.
Un petit coup de pit-pit dans le nez.
Le showbiz, hein, ça n'a pas changé. Hein.
Europe 1.
Le showbiz où tout le monde fait semblant de s'aimer jusqu'au jour où, par hasard, certains s'aiment vraiment. Oui, ce sera probablement la une de Voici Vendredi. Alors autant l'avouer, entre Sandrine Bonner, notre invitée d'hier, et Anissé Mbida, il y a anguille sous roche, voire cachalot sous barrière de corail. Entre eux, tout est allé très vite.
Donc tu étais amoureux de Sandrine?
J'avoue. C'était à l'époque de Saint-Ouen-Illois.
Ah bah dis donc, vous étiez courageux de tomber amoureux de moi.
Saint-Ouen-Illois,
elle est pas très super attrayante, la meuf. Hein.
Oui, mais après, elle fait des promos.
Ah oui.
Et on la voit normale.
Anissé est censé nous livrer les secrets des télés du futur, mais sera-t-il en état de le faire? C'est la question qui se pose au lendemain d'une nuit qui a dû être longue. La réponse, juste après Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour se vider la tête tout en se la remplissant. Si vous voyez ce que je veux dire, Anne, mais peut-être ne suis-je pas clair et souhaiteriez-vous que je reformule?
Bon, c'est même pas la peine puisque je comprends rien.
Bien, alors avançons. 4 journalistes émérites en compétition sous l'œil d'un invité arbitre. Aujourd'hui, notre parrain de cœur, l'écrivain David Fuenkinos. Votre pièce, David, 10 ans après, démarre dans quelques jours au Théâtre de Paris avec Bruno Solo. Bruno qui nous disait d'ailleurs l'autre jour tout le bien qu'il pense de vous, David.
Peut-être le plus grand génie de l'humanité, l'un des plus grands génies de l'humanité avec Isaac Newton.
Bon, parlez de Léonard de Vinci, mais globalement, il vous kiffe aussi beaucoup, hein, je vous l'ai dit.
Ça fait plaisir.
C'est réciproque. Alors, vous nous racontiez que sur cette pièce qui s'appelle 10 ans après, vous l'aviez écrite il y a 10 ans et que ça avait mis un peu de temps pour se faire avec Bruno Solo, qui dit même que vous avez réécrit un petit peu la pièce, c'est ça?
Oui, souvent les projets sont. Voilà, j'ai écrit il y a 10 ans, puis après on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, mais c'est vrai que j'avais en tête toujours de faire cette pièce avec lui parce que je l'adore comme acteur et c'est vrai que. Là, j'ai assisté aux répétitions, c'est extrêmement drôle. C'est vrai que pour un auteur de roman, je ne suis pas toujours en capacité de voir les réactions des lecteurs. Donc là, être dans une salle voilà, et entendre les gens rire, c'est assez excitant.
C'est gratifiant. Vous avez une théorie dans cette pièce. Il vaut mieux annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un au moment du décès. L'un des protagonistes dit « Tout passe bien mieux dans une atmosphère sucrée. Quand Cléopâtre a quitté César, c'était au dessert. Joséphine et Napoléon, pareil. Birkin et Gainsbourg, je le sais de source sûre, on était sur un crumble framboise. » Vous pensez vraiment que ça passe mieux au dessert?
C'est très très important. Non, c'est une pièce très sérieuse à ce niveau-là. C'est vraiment... Non, mais ce qui m'excitait, c'était de faire durer un dîner dont on sait qu'il va y avoir une révélation à un moment donné et que l'un veut dire tout de suite et l'autre veut retenir à tout prix. Voilà, donc c'est un dîner qui dure assez longtemps et tout va se passer au moment du dessert.
Le temps de vie d'un couple est souvent calqué sur la durée d'un crédit. La preuve, les pauvres s'aiment plus longtemps que les riches. Alors, c'est pas un constat de ma part, de ce que je suis cynique, mais juste...
C'est pour ça que vous changez extrait... très souvent de vie sentimentale.
Créez votre vie.
Je suis pris à mon propre piège. David, c'est cruel et optimiste comme vision. En même temps, c'est drôle. Hein. Mais est-ce que vous pensez, vous croyez que l'amour éternel, c'est une vue de l'esprit? Vous pensez qu'il faut changer de temps en temps?
Bien sûr, je pense que ça peut exister. Là, cette pièce parle d'amour d'une manière un peu amusée, avec la lassitude, avec le fait que voilà, on a envie de vivre d'autres choses à certains moments et comment y parvenir. Mais je crois que l'amour éternel,
voilà, est tout à fait possible.
C'est important de le dire aux auditeurs et aux auditrices d'Europe 1. L'amour éternel existe. Sa pièce, 10 ans après, sera à l'affiche du Théâtre de Paris à partir du 21 janvier. David Foenkinos est avec nous jusqu'à 18h. Et note à moi-même, pensez à préparer un crumble framboise à Eva Rock, un de ces quatre.
Enfoiré. Europe 1.
À suivre, elles sont déjà si belles, si fines, leur image est si prodigieuse. Quelle surprise les télévisions de demain nous réservent-elles pour nous épater encore? Réponse avec le Casanova d'ébène. Comme on le surnomme depuis son raid sur Sandrine Bonner hier.
Elle a eu sarde.
Bonjour au lycée, essayons de rester chic.
Europe 1, l'équipée sauvage, 16h-18h. L'équipée sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Rire et découvrir tout en s'abandonnant au plaisir sadique de noter les journalistes d'Europe 1 comme des livreurs de bibimbap. Voilà la cruelle formule de l'équipée sauvage. La seule émission de la bande FM qui s'évertue à combiner le suspense de Game of Thrones à la drôlerie de Papy fait de la Résistance.
Arrête ! On va finir par distribuer des petits bonbons au cyanure à tout le monde et... il y aura moins de bruit, croyez-moi.
Via Twitter, vous votez pour votre chronique préférée. Et en fin d'émission, notre invité tranchera aujourd'hui David Foenkinos, dont deux pièces arrivent à Paris. On continue d'en parler, mais vous le savez David, la compétition n'attend pas. Elle est impitoyable, elle ne pardonne rien. Bref, elle est comme la femme d'Anissé Mbida. Au lendemain de la rencontre adultérine la moins discrète de l'histoire du PAF, le coup de foudre en direct entre Sandrine Bonner, notre invitée, et le goujat du Big Data, notre expert informatique, Anissé Mbida. Alors, heureusement qu'en fin d'émission, en toute fin d'émission, Sandrine Bonner a eu la présence d'esprit quand même de calmer le jeu et de rappeler à Anissé qu'il était marié, sinon ça partait vraiment en sucette. Anissé Mbida, pourquoi voter pour vous?
J'étais amoureux de Sandrine Bonner et que je sens que je suis en train de le redevenir.
Qui, selon vous, parmi les journalistes d'Europe 1, mérite d'être élu chroniqueur du jour?
D'abord, vous êtes marié, vous avez deux enfants.
Une belle histoire qui s'arrête net.
C'est foutu, notre
ça
histoire
peut être épistolaire, ça peut être tout ce que vous voulez, moi je prends.
Mais c'est trop facile, Anissé.
Alors Anissé, on se ressaisit, on se reconcentre sur l'objectif journalistique, la couronne de chroniqueur du jour, et aujourd'hui, vous nous emmenez dans le futur. Pour acheter une télé, c'est oui. Moins sexy.
Ouais, parce que
c'est moins romantique.
Parce que les télés de demain, ça c'est un peu la bonne nouvelle, n'auront rien à voir avec les télés qu'on a aujourd'hui. Elles vont complètement changer.
Je vois pas
changer.
Comment, vous allez nous expliquer.
Parce que vous l'avez remarqué, elles sont de plus en plus grandes aujourd'hui, les télévisions. Donc on se retrouve dans nos maisons avec des écrans complètement noirs. Ça prend de la place, c'est de plus en plus imposant. Donc du coup, on la garde allumée parce qu'on ne veut pas avoir cette espèce d'objet noir. Et donc les fabricants travaillent à faire disparaître la télé. Et chez LG, par exemple, on travaille sur une télévision transparente. Donc on aura l'impression d'avoir une plaque de verre en face de soi.
Ouais.
Sauf quand on appuie sur la télécommande, hop, la plaque de verre se transforme
question.
En véritable télévision.
Pas un pro de la déco, mais avoir une plaque de verre qui fait pile 106 de diagonale,
bah c'est plus bon,
ça peut éveiller les soupçons quand même. On peut se dire, ça ressemble à une télé quand même.
Oui, mais c'est quand même plus esthétique qu'un écran noir, qu'un gros truc noir.
Vrai.
En plus, l'avantage de la plaque de verre, c'est qu'on peut l'intégrer à un meuble, on peut la mettre dans un coin, ça ne gênera pas qu'aujourd'hui, vous mettez votre télé au milieu du salon, c'est un vrai problème. Chez Samsung, on a fait autre chose, on a complètement supprimé les bordures, vous savez, qu'il y a autour de l'écran. Et on a éclaté l'écran en petites dalles modulaires. Ça veut dire qu'on pourra se fabriquer un écran de la taille qu'on veut en mettant les petites dalles les unes à côté des autres et en faisant une espèce de Lego avec les dalles. L'idée, c'est de pouvoir transformer n'importe quelle surface en écran.
Est-ce que ça sera plus simple à monter que le bateau pirate de Lego? Parce que moi, j'ai bien galéré avec le bateau pirate de mon fils. Soi-disant, c'est à partir de 7 ans. Bah, je peux vous dire que moi, j'en ai 37 et j'ai mis un peu de temps. Hein.
Vu qu'il n'y a que 4 faces avec des clips de chaque côté pour
ça
se tromper,
vous me connaissez mal.
Mais l'intérêt, c'est de pouvoir les coller sur les meubles, sur les portes, sur le plafond, etc. Et du coup, on pourrait afficher des photos, on pourrait afficher des petites télé où on veut, on pourra avoir des tableaux. Et c'est l'idée, c'est d'avoir des télés qui font en même temps des dalles de décoration. Donc on peut avoir un grand mur pour la télévision, mais aussi juste simplement afficher des couleurs ou des formes à gauche, à droite.
Anissé, je veux pas saper votre enthousiasme, mais moi personnellement, j'ai la chance d'avoir chez moi une télé de la marque que vous avez citée, qui est une télé tableau. C'est déjà un tableau, en fait, ça existe déjà, hein, vos télés du futur.
Oui, mais vous pouvez pas l'avoir de forme modulaire. Vous pouvez pas la mettre sur un petit meuble, sur un.
Bah, je fais ce que je veux. Il y a même un pied qui est vendu avec. Je peux l'exposer comme un tableau.
Oui, mais elle fait minimum, elle fait 32 pouces, hein, votre télé, j'imagine.
Ah, effectivement.
Ça veut dire 70 centimètres.
Les chroniqueurs.
C'est mon métier, David.
Il cherche une nouvelle télivision pour remplacer sa Samsung.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
En ce moment,
la cité la marque. Marc. Vous pouvez envoyer
pour
la
avoir des éléments pratiques. Ouais. Combien ça coûte
comme tous les nouveaux modèles, hein, c'est comme les premiers plasmas, ça coûte 60-70 000 euros, donc ça coûte extrêmement cher. Mais comme d'habitude, ah ben voilà, dans ce monde technologie,
fallait commencer ça baisse.
Non, mais ça baisse énorme, ça allait extrêmement vite. Baisse, est-ce que vous vous souvenez du prix de la première écran plat?
Ça coûtait, c'est vrai, je me souviens, c'était très cher.
Personne pourrait l'acheter aujourd'hui, ça coûte 200-300 euros. Il y a une autre technique aujourd'hui, vous savez qu'on vous a bassiné avec la 3D pendant des années.
C'était 3D ready, tout ça.
Aujourd'hui, on a abandonné la télé, maintenant on veut aller beaucoup plus loin, on veut quasiment faire des télés holographiques.
Qu'est-ce que ça va être, ça?
L'idée
on va voir Mélenchon qui sort de la télé.
Exactement. Plutôt que d'avoir un écran plat qu'on accroche au mur, là, on va le mettre à plat sur sa table basse et on va projeter des hologrammes exactement comme Mélenchon. Et l'intérêt, c'est justement d'avoir les mêmes effets qu'au théâtre, mais directement dans son salon, puisqu'on pourra tourner tout autour de sa table et voir les acteurs sous les différents
angles. Le théâtre filmé qui avait été si critiqué va enfin prendre ses lettres de noblesse.
Vous allez pouvoir avoir Sandrine Bonner chez vous.
Il risque d'en abuser, le petit sagouin.
Ce qui est intéressant, alors il y a plusieurs sociétés qui travaillent déjà dessus, c'est Looking Glass, où il y a un français qui s'appelle Leia, alors Leia comme la princesse Leia, l'hologramme de Star Wars. Alors pour le moment, ils sont surtout utilisés par les bureaux d'études pour afficher des maquettes en trois dimensions, et on imagine que sur la télévision, ça va prendre un petit peu plus de temps, puisqu'il faut filmer en 3D avant de pouvoir le diffuser en 3D, en hologramme, dans son salon.
Là, le prix de départ, à mon avis, sera quand même assez dissuasif. Hein.
Figurez-vous que c'est un peu moins cher.
Ah bon?
Oui, c'est un peu moins cher. On est dans les 10, 20 000 euros.
C'est vrai.
Parce que c'est des surfaces qui sont un peu moins grandes. On n'est pas obligé d'avoir quelque chose d'énorme comme les autres. Et c'est déjà commercialisé par rapport aux autres qui sont encore des prototypes et qui coûtent extrêmement cher.
Eh bien, merci Anicem Bida. Vous essaierez de m'obtenir 10% sur tout ça.
Ou alors, autant aller au théâtre directement, c'est 20 euros.
C'est 20 euros pour aller voir les pièces de David Foligno, c'est un bien meilleur rapport qualité-prix. Alors, Anne Le Gall, pas mal hein, pour un type qui vient d'avoir un coup de foudre.
6 soirées coquines, il y a eu, et il y a eu visiblement.
Oui, bon, bref, on va parler déjà, c'est bon. Europe 1. David Foligno, c'est notre invité cet après-midi. Il était, on le rappelle, l'invité de notre pilote, notre émission Zéro, jamais diffusée en juillet dernier. Et la question que vous posez fatalement depuis de l'émission, David, Eva Rock va-t-elle mieux? La réponse est hélas, bof.
Je suis fasciné par les mérous.
On va quand même essayer de mesurer les progrès accomplis par Eva avec notre fameux quiz qui l'oppose à l'invité. Aujourd'hui, pour fêter nos bonnes audiences, j'ai décidé d'être magnanime, Eva. Face à David Foligno, le thème du quiz sera la littérature.
Petit salaud, vieille fiotte.
Eva, je vous en prie, ne gâchez pas la fête avec de la susceptibilité mal placée.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1 et aujourd'hui avec tous mes complices de l'équipe sauvage, on vous remercie car vous êtes de plus en plus nombreux à chevaucher avec nous chaque après-midi sur les terres parfois escarpées mais toujours passionnantes du savoir. Je tiens aussi à remercier nos invités dont l'enthousiasme communicatif a fait beaucoup pour le succès de cette émission. Spéciale dédicace à Éric-Emmanuel Schmitt qui dès le troisième numéro était déjà
chaud comme une baraque à frites.
Aujourd'hui, le hasard fait bien les choses. C'est le parrain de notre émission qui nous accompagne, l'auteur David Foligno. Deux de vos pièces sont montées à Paris fin janvier et en mars aussi. David, rien ne vous prédestinait finalement, quand on regarde votre bio, à être l'auteur à succès que vous êtes devenu. Apparemment, jusqu'à l'âge de 16 ans, vous n'étiez pas un si grand lecteur que ça?
Oui, j'étais pas du tout lecteur même, et puis c'est vrai que j'étais pas du tout issu d'un milieu culturel, donc je sais pas si on est prédestiné ou pas aux choses, mais j'ai été gravement malade à l'âge de 16 ans, et c'est vrai que j'ai passé de nombreux mois à l'hôpital, je me suis mis à lire, à écrire, et c'est vrai que ça a changé. Jouer de la guitare, oui, j'étais en école de jazz après le bac, mais c'était une impasse auditive. Non, mais c'est vrai que l'écriture, je pense que tous les adolescents, voilà, où on cherche un moyen de s'exprimer, et c'est vrai que ça a été petit à petit davantage par les mots et l'écriture.
C'est ma passion, c'est ma question récurrente. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas fait votre métier actuel, c'est-à-dire écrivain? Là, la question se pose d'autant plus qu'il y a eu cette maladie que vous auriez très bien pu ne pas avoir, finalement. Vous auriez pu prendre une voie complètement différente. Est-ce que parfois, vous réfléchissez, quand vous êtes dans une séance de dédicace comme ça, tout fonctionne pour vous, est-ce que vous vous dites quel métier j'aurais pu exercer, quelle voie j'aurais prise si j'avais
c'est
pas eu cette épiphanie?
C'est difficile, hein. Mais je crois que j'aurais adoré faire Mathieu Noël. Je crois que j'aurais adoré faire une émission comme ça, voilà, me moquer de mes chroniqueurs, être une sorte de psychopathe un peu. Voilà,
une sorte de psychopathe souriant.
C'est ça. Je lisais dans une interview à Rolling Stone, on vous posait la question, vous qui aimiez la musique et vous imaginiez rocker, vous auriez aimé être quel musicien? Vous vous souvenez
ça,
de la réponse?
Non, je ne sais pas. J'ai dit une réponse.
Oui, vous avez répondu Mathieu Chédid.
Ah ouais, toujours, tiens, parce que je viens de le voir en concert.
Il est toujours
c'est
formidable.
C'est vrai que ça doit être extraordinaire de vivre ça. Il est tellement dément quand il traverse la foule comme ça. C'est vrai que ça doit être. C'est des choses qu'on ne pourrait pas imaginer vivre ça.
Mais vous avez complété la réponse aussi en disant Benjamin Biolay, mais pour sa vie sexuelle.
Oui, bah, il faut dire une connerie de temps en temps.
Ah, comme quoi, vous avez bien beaucoup être Mathieu Noël, vous êtes aussi, aussi détraqué que moi.
Dit, hein, j'aujourd'hui des conneries parfois, et puis je ne savais pas qu'Eva Rock relisait tout ça.
Alors, David, on parle de vous, on vous tresse des lauriers, mais nul invité n'y échappe. L'heure est venue d'affronter votre pire cauchemar, un quiz face à Eva Rock. Aujourd'hui, rendons hommage à votre imagination foisonnante, David. Le principe est simple, je vous donne des titres de livres improbables. À vous de me dire s'ils existent vraiment ou pas. Vous êtes opposé évidemment à Eva, oui. C'est un vrai faux. David Fuenkinos, on commence avec vous. Mon chat va-t-il manger mes globes oculaires? Toutes les questions que les enfants se posent sur la mort. Vrai ou faux livre?
J'ai envie de dire faux parce que c'est un peu anxiogène quand même.
Vous êtes sûr de votre réponse, David Fuenkinos?
J'hésite un peu.
Oui, mais... vous hésitez, oui. Quelle pourrait être votre réponse?
C'est peut-être vrai en fait.
Vous êtes vraiment le meilleur, David.
J'ai bien fait de faire ce pilote.
Vrai livre sorti en septembre dernier, écrit par Kathleen Doughty, une américaine qui défend des pratiques funéraires plus humaines. Vous apprendrez pourquoi les cadavres gémissent, pourquoi on change de couleur et si on peut conserver chez soi le crâne de son meilleur ami. Moi, j'ai ce projet-là pour vous, Eva. Je ne vous en ai pas encore parlé.
Vous, je vous prépare un crumble à la framboise, vous allez voir. Ça va vous,
Eva, justement.
Ça va vous calmer.
Repassage extrême, le livre officiel de ceux qui aiment repasser dans des lieux incongrus et dangereux. Vrai ou faux livre?
Non, c'est faux.
C'est faux. C'est un vrai livre sorti en 2004. Écrit par le fondateur officiel de ce sport à haut risque, qui, je cite, combine les frissons d'une activité extrême et la satisfaction d'une chemise bien repassée.
C'est-à-dire, on repasse dans des endroits improbables.
On n'a pas
un exemple. Oui, c'est le titre du livre.
Non, mais ça,
on n'a pas un exemple.
Oui, c'est pas. On n'a pas, mais on va se procurer ce livre, on va le commander rapidement. Oui. David Fuenkinos, Dédé, le dé à coudre contre les 4 sandwichs au plâtre. Une histoire un peu surréaliste de lire à 7 à 77 ans. Vrai ou faux livre?
Oh, ça me paraît vrai, ça.
Est-ce que vous êtes sûr de votre réponse, David Fuenkinos?
Non, en fait, non.
Non,
ça,
vous n'êtes pas sûr. Et c'est la bonne réponse. Décidément, il a réponse à tout. C'est bien dommage, il tout. Eva Rock, attention, cette question va vous départager.
Oui. Non, départager de la loose, oui.
Oui. Ouais. Apprendre à jouer avec des testicules de lion. Vrai ou faux livre?
Il faut vous changer de rire absolument.
Oui, je vais te demander un nouveau rire pour 2020.
Oui, oui. Je dis vrai.
Vous dites vrai livre, c'est une bonne réponse. Apprendre à jouer avec des testicules de lion, David.
Et
oui,
et
oui. Ah, ça c'est un peu moins bien vendu que la délicatesse. Mais bon, le titre original, Learning to Play with a Lion's Testicles. L'auteur Melissa Haynes a été reçue par Ricky Gervais, Jimmy Fallon et Ellen DeGeneres aux États-Unis. C'est un roman sur une cadre supérieure épuisée qui va chercher un sens à sa vie en Afrique du Sud et prendre de gros risques, d'où le titre, inspiré d'un proverbe africain.
Voilà, là on dirait ma vie.
Qui remporte le quiz? Il remporte le quiz, il a triomphé des Varocs. Est-ce pour autant quelque chose qu'il mettra en avant sur son CV? Pas sûr. David Fuenkinos, c'est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, et si mon cher David, je vous proposais qu'on échange nos vies.
Il y a vraiment des jours où j'ai l'impression qu'il te manque un boulon.
Oui, vous avez raison, ça serait pas forcément un bon deal pour vous, ça serait plus du lose-win que du win-win. Eh bien, certains l'ont fait, échanger de vie, notre reportage, juste après Cocoon, Back to One sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Bonne humeur, découverte, éclat de rire, mais aussi trahison et coup tordu, tel est l'ADN de l'équipe est sauvage. Chaque après-midi, par l'entremise d'une folle compétition opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1, c'est le spectacle tantôt cocasse, tantôt pathétique de la comédie humaine que nous vous offrons. Depuis peu, même nos correspondants en région y vont de leur petite mesquinerie, à l'instar de Stéphane Place, correspondant dans le Sud-Ouest, qui l'autre jour a eu l'outrecuidance d'oublier le nom d'une personne pourtant très importante de cette émission.
Là, je distingue le regard pétillant d'Eve qui a tout compris.
D'ailleurs, Eva veut intervenir là-dessus.
Oui, et respecter aussi les prénoms des collaborateurs, parce que moi, c'est Eva et pas Eve. Stéphane Place.
Bonjour quand même, Stéphane Place.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous, et bonjour Eva. C'est tellement
bien joué. Bien
vous avez vu en plus, ça rime avec remontada. Là, et tout ça,
bien vu.
Eva,
bien
quoi,
vu.
C'est Eva.
Alors, mon cher Stéphane Place, changer de vie, quitter le pays, sortir de sa zone de confort, comme on dit dans les réunions de DRH, et pousser le concept jusqu'à donner les clés de sa maison, de sa voiture, carrément filer son job, eh ben, c'est ce qu'ont fait deux enseignants de Gironde partis au Canada pour un an dans le cadre du programme Échange de poste France-Québec. C'est un peu « viens chez moi, que je m'installe chez toi » en fait.
C'est le principe, c'est très bien résumé. Boris et Célia sont instituteurs, professeurs des écoles, comme on dit maintenant, à Rosan. C'est un charmant village de Gironde, bordé de vignes. Mais ils avaient envie de vivre une belle aventure avec leurs enfants à l'étranger. Alors depuis cette rentrée, ils ont échangé leur travail, vous le disiez, leur maison, avec un couple d'instituteurs québécois.
Génial.
Cap sur Gatineau pour ces Français, près d'Ottawa, pour donc Boris Léglise et sa famille, les joueurs prévoit du pelletage pour déneiger le chat le matin, préparer la boîte à lunch, affronter les moins 20, moins 30 cette semaine hein, et découvrir de nouvelles approches pédagogiques, un vocabulaire différent aussi.
Il a fallu se mettre à jour. En France, j'ai travaillé donc sur la préhistoire, les Gaulois, les Romains. Et puis là, je suis passé donc sur les Iroquois, les Algonquins et puis les Incas, que ce soit sur le plan familial ou professionnel. On va de découverte en découverte. Sur la façon d'enseigner, on va dire qu'on est beaucoup plus ici dans un système de valorisation des bons comportements. Il y a des récompenses individuelles, de classe, des récompenses d'école. Ce qu'on ne fait pas forcément en France et qu'on devrait faire peut-être davantage. Il y aurait un équilibre à trouver entre les sanctions et puis la valorisation. Parce qu'ici, il y a très peu de sanctions. C'est ce qui nous a marqué aussi. On a découvert que ben, nous, le classeur qu'on utilise en France s'appelle ici un cartable. Donc quand moi, je parlais de cartable, parfois les élèves ne me comprenaient pas puisque en fait, je leur parlais du sac à dos. Eux, ils viennent à l'école avec le sac à dos, ils viennent pas avec un cartable. Donc voilà, il y a eu des petits flottements comme ça qui, au final, nous faisaient rire à tous. Après l'accent, les élèves qui, en début d'année, m'ont dit « Monsieur Boris, vous avez un accent ». J'ai dit, vous rigolez, c'est vous qui avez un accent. Des petites choses comme ça où on s'amuse avec l'accent, mais on se comprend très bien.
Et voilà, c'est Tigidou, Tigidou, comme on dit au québécois. Je crois que ça veut dire super, tout ça. Boris et Célia et leurs enfants sont aux petits oiseaux, parlent tous les jours. Alors quand je dis aux petits oiseaux, ça, vous pourriez rebondir quand même un petit
oui,
peu.
Oui, ça veut dire quoi aux petits oiseaux
bah, je pensais que vous le saviez, moi, avec votre grande culture internationale.
Moi, je pensais tout simplement que vous aviez bu, hein, Stéphane. Là, ce
ouais, mais ça, forcément, ça va un peu vite. On vous a dit qu'il fallait valoriser la classe, tout ça. Bah, alors vous, hein, vous en êtes très très loin. Non, aux petits oiseaux, ça veut dire être dans le bonheur, quoi, être super
ah,
bien.
Ah oui, ouais, c'est comme joli. Les petits oiseaux qui sont au-dessus de la tête de Blanche-Neige, là.
Voilà, alors là maintenant oui, on bascule ça, dans la version oui. Dessin animé. Alors il y en a un, c'est l'alcool, l'autre, la version. On est bien, on est très très bien. Je vous le dis quand même, ils sont super heureux. Il y a près de 6000 km qui donc les séparent du village de Rosan et de leurs homologues québécois, qu'on pourrait aussi aller voir sur une prochaine émission, qui sont donc ces deux instituteurs venus de Gatineau qui eux enseignent en Gironde. Et ils s'appellent tous les jours. Enfin, moi je trouve que cette expérience est formidable. Voilà.
Ah ouais, génial. Chouette.
Nous aussi, on trouve que c'est formidable, presque aussi formidable que vous, Stéphane Plas.
Flatteur.
Ce qui n'est pas peu dire. Hein.
Flatteur.
J'ai essayé de prendre l'accent québécois, mais ça n'a pas fonctionné.
Non, vous avez basculé dans un truc qui, je ne sais pas.
Presque l'accent en belge. Je ne sais pas où je suis parti, mais je suis parti trop loin. Bon, je vous remercie, Stéphane.
Je vous embrasse. Europe 1.
C'est avec une joie particulière, décuplée, que nous vous accueillons cet après-midi dans l'Équipée Sauvage. Les audiences médiamétrie sont tombées ce matin. Vous êtes de plus en plus nombreux et précisément 96 000 de plus à nous écouter tous les jours entre 16 et 18 heures. De là à pérorer outre mesure, il y a un pas qu'évidemment nous ne franchirons pas, même si de vous à moi il est possible que ce soir...
Ce soir, nous irons danser sans chemise, sans pantalon.
C'est possible. Non, et ben parce que vous aviez fait une promesse sur les audiences que vous allez honorer d'ailleurs.
Ah bon ?
C'est-à-dire que vous allez faire le tour de l'Arc de Triomphe cul nu. C'était ça que vous aviez promis.
Non.
C'est si on retrouvera les bandes. En attendant, nous allons rester professionnels. Deux nouveaux concurrents arrivent pour tenter de décrocher la couronne de chroniqueur du jour. Au programme, l'histoire de cette championne iranienne qui a fui son pays pour ne pas servir de caution au régime de Téhéran et les bons conseils de notre expert littéraire pour réussir à vous faire éditer. Quel dommage qu'il faille choisir entre ces quatre journalistes, mais enfin, je ne peux pas me plaindre, comme disait Bruno Solo.
Bah ouais, mais enfin, fallait pas faire un métier de pute.
Tu reviens quand tu veux, Bruno.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
C'est la mi-temps pour nos champions. Des champions élevés en plein air, entre le périph' et l'usine Lafarge du Quai de Javel. Quatre journalistes qui s'affrontent chaque après-midi au service de votre savoir, sous l'œil d'un invité d'honneur. Aujourd'hui, l'écrivain David Fuenquinos, qui n'en finit plus de cartonner. Deux de ses pièces sont montées à Paris en ce début 2020. Un succès tonitruant qui n'est pas sans rappeler le nôtre. Vous ai-je déjà parlé de nos audiences ? Ah oui, 17 fois déjà, je ne vois pas le temps passer, autant pour moi. Eh bien, c'est l'occasion de vous remercier une fois de plus, chers auditeurs. Vous savez, je crois que ce qui fait la différence, ce qui fait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, c'est que vous appréciez dans l'équipée sauvage qu'on soit détente, potache, mais jamais obsédé. Comme on a pu encore le constater hier, au moment où hors antenne, Eva a commencé à parler de Ludivine Saigné dans la série The New Pope, à Anis et Mbida.
T'es dans New Pop, mais elle est à poil. Et Cécile de France.
Nue.
Et Cécile de France, pareil.
Nue.
Elle est géniale, la série. Hein.
Cécile de France, elle est nue aussi ?
Ouais.
Mmh. Je la garde.
Elle est très très belle.
Nue.
Nue, oui, elle est nue. Elle est nue. Décidément, il lui faut toutes. Ah, parfait. Il est 17h sur Europe 1.
Europe 1. 16h, 18h. L'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, la preuve d'un goût certain. L'équipée sauvage s'apprête à sauter à pieds joints dans une deuxième heure qui s'annonce aussi excitante que la première. Nous élirons, comme chaque après-midi, le chroniqueur du jour, celui ou celle qui vous aura offert le papier le plus intéressant. Le tout sous l'œil de notre invité d'honneur, aujourd'hui l'auteur à succès David Fuenquinos, qui me demandait durant le journal quelle était la recette du succès. Bon, je ne sais pas si c'est à moi de le dire, mais ce qui explique à mon sens nos bonnes audiences, c'est qu'ici dans l'Équipée Sauvage, on n'a jamais eu peur d'aborder des questions de fond, quitte parfois à déboucher sur des débats houleux, comme avec votre acteur Bruno Solo.
Le yaourt cerise, ça me rappelle quelque chose.
Ah ouais, c'est vrai? Ah non, c'est les plus dégueulasses.
Je suis pas d'accord. Ah, moi j'aime bien aussi, j'aime bien
les... Il reste souvent les yaourts cerises.
Ah ouais, moi aussi, moi je suis celui que je prends en premier.
Dans le frigo, au fond, là, tu feras.
Personne veut les yaourts cerises parce qu'ils n'arrivent pas à faire la saveur de la cerise.
Ah, moi j'aimais bien les yaourts cerises aussi. Ce que je détestais, c'était ananas, tu vois.
Ah non, ananas, c'est dégueulasse aussi, ouais, c'est vrai, t'as raison. David, je vous pose la question, les yeux dans les yeux.
C'est exactement les échanges que j'ai avec Bruno.
C'est comme ça que vous avez construit cette pièce. On continue d'évoquer vos pièces, vos projets, David. Juste le temps de vous présenter nos deux derniers journalistes en compétition ce soir. À ma gauche, un compétiteur absolument implacable qui, contrairement au gentillet Pierre de Coubertin, ne pense pas du tout que l'important c'est de participer. Il pense plutôt que l'important c'est d'écrabouiller ses adversaires et de les finir à la Doc Martens. Jérôme Lacroix, comment vous avez trouvé les autres journalistes jusqu'à présent?
Des pigeons de compétition.
Jérôme, vous êtes un expert sport, mais sous vos muscles... Val, un cœur tendre bat. C'est une histoire émouvante et édifiante que vous nous contez ce soir.
Salut les tocards. Oui, c'est exactement ça, vous avez choisi les bons mots. Je vous raconte l'histoire de Kimia Alizadeh, qui est une championne, elle est iranienne, et je vous raconte qu'elle a choisi de privilégier la force de ses convictions plutôt que le prestige olympique.
À ses côtés, David Fuenquinos, l'expert littérature d'Europe 1 en personne. À chaque interview, il prouve qu'il mérite ses neuvetés dans Télérama.
Il y a des Eric, il y a des Pierre, donc Sam. Est-ce que c'est compliqué de choisir des prénoms dans un roman?
Bonjour Nicolas Caro.
Je ne regrette pas cette question.
Très bonne question. J'adore vous écouter chaque week-end. Vous nous rappelez l'horaire de votre émission, Nicolas?
14h-15h le dimanche.
14h-15h le dimanche. À la découverte d'une bibliothèque de stars. Est-ce que vous avez déjà fait la bibliothèque de David
Fuenquinos? Je lui ai demandé, mais il était en plein déménagement.
J'ai pas de bibliothèque.
J'ai
que des cartons à droite à gauche.
Ça pourrait être un concept pour l'émission d'aller ouvrir les cartons avec
dès
vous.
Dès que je déménage, j'appelle Nicolas immédiatement.
Il vous déballe. Il y a un service comme ça à Europe 1. Hein. Nicolas Garot ouvre vos cartons et il place les livres dans la bibliothèque.
Je les rangerai avec lui.
Ah ouais, mais attends, ça sera super.
Oui, bon, alors vous discuterez en tête de cette idée géniale. Alors on le sait, de plus en plus de Français se mettent à l'écriture. Ce soir, mon cher Nicolas Garot, vous nous livrez les combines pour réussir à se distinguer, à sortir du lot, à être édité.
Et oui, et je vais commencer par vous parler de la bibliothèque des manuscrits refusés. Ça existe. Et puis ensuite, effectivement, je vous dirai comment ne pas aller dans cette bibliothèque et être édité.
Est-ce que ce ne serait pas le livre de quelqu'un d'assez célèbre, d'assez talentueux, ce livre sur les bibliothèques des livres qui n'ont pas été publiés?
Deux même, David Fuenquinos et Richard Brautigan.
Quel sujet
je
aura
me disais,
vos faveurs?
Ça me dit quelque chose.
Finalement, ça fait tilt. Quel sujet aura vos faveurs, les trucs et astuces de Nicolas Caro pour se faire éditer, ou bien l'histoire de la championne iranienne qui a dit non, ou plutôt Nakoresh Mikolani en farsi? Évidemment, réponse juste avant 18h. En attendant, je me tourne vers notre invité d'honneur, l'épatant David Fuenquinos, toujours aussi imperméable au phénomène pourtant répandu dans le milieu du melon, et ce, malgré les succès qui s'enchaînent. Qui est pour vous, David Fuenquinos? On est allé vous poser la question. Voici, non pas un micro-trottoir, toujours monté pour flatter l'invité, voici notre micro-trottrash. C'est pareil, sauf qu'on a tout laissé.
David Fuenquinos.
Frisé, maigre, barbiche, c'est ça?
David Fuenquinos.
Brun, il a des cheveux partout.
Fuenquinos. Pour moi, il a une tête d'auteur de roman policier.
J'adore ce monsieur. Je lis presque tous ses livres.
C'est un jeune auteur qui compte dans le paysage littéraire de nos jours.
Vous le recevez quand?
J'ai entendu qu'on allait sortir une pièce de théâtre sur son bouquin. J'irai volontiers la voir.
C'est un écrivain que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup ses livres. Tout ce qu'il a écrit, j'ai tout lu.
David Fuenquinos. On dirait le mec dans Eric et Ramsey, là.
C'est-à-dire Ramsey, quoi.
C'est-à-dire, plus
le
précisément,
mec dans Eric et Ramsey.
Si on veut être spécifique, ça veut dire Ramsey. On vous l'avait déjà faite, celle-là?
Oui, on me l'a souvent faite. Ouais,
j'avais jamais pensé.
Mais il est beaucoup plus beau que moi.
Hein. Oh, mais quelle modestie,
Ramsey,
incroyable.
Plus beau. Hein.
Cessez avec votre modestie, David Fuenquinos.
J'ai un copain qui est un petit chauve, et c'est vrai qu'on nous a bien confondu.
Non, c'est pas vrai.
Petit sketch. Alors, 10 ans après, au Théâtre de Paris, à partir du 21 janvier, on en a parlé, une pièce avec notamment Bruno Solo, et vous avez coécrit avec Amanda Sterz une pièce intitulée Amis, dont nous n'avons pas encore parlé, avec Cadmerade et Claudia Tagbo, et aussi Lionel Abelansky, une pièce qui se jouera au Théâtre de la Michaudière à partir du 3 mars. Alors, l'écriture d'un roman, c'est un exercice solitaire. Comment ça se passe, la collaboration, quand deux écrivains comme vous et Amanda Sterz collaborent pour une pièce?
Oui, c'est la seule pièce que voilà, j'ai co-écrite.
Comment
c'est
on
vrai
fait
que c'était, on a fait vraiment comme du ping-pong. On écrivait une scène chacun, on repassait, et puis voilà. C'était extrêmement stimulant. Elle a été assez rapide à écrire, finalement, cette pièce.
Plus rapide que
et, vous. Oui, non, mais parce que seul, je galère pas mal. Non, non, et c'est vrai, on sait très bien, on était très excités par le sujet, qui est assez drôle. C'est quelqu'un qui a... On est un peu sur le type de boulet, quoi. C'est-à-dire vraiment Kadmerad qui va se retrouver avec Lionel Abelansky, qui veut à tout prix être ami avec lui. Et il va tout faire pour...
Ça démarre sur un site de rencontre amical, en fait.
Ouais, c'est ouais Amythique.
Amythique.
C'est la version amicale de Mythique.
Et en fait, on rentre ses caractéristiques et ça nous matche avec quelqu'un.
Ouais, exactement. Et on comprend qu'en fait, plus tard, qu'il ne s'est pas vraiment inscrit lui-même et qu'il se retrouve... voilà. Mais il va avoir un coup de foudre amical. Et il y a un twist à un moment donné dans la pièce... Et c'est vrai que je suis très très content aussi, c'est comme Bruno Solo, j'ai mis du temps à attendre mon petit Kadmerad sur scène, ça fait très longtemps que j'ai envie de travailler avec lui.
Et bien effectivement, quoi de mieux que d'avoir deux pièces à Paris, l'une avec Bruno Solo, l'autre avec Kadmerad. Il nous a porté chance, on est ravis vraiment de l'accueillir ce soir. David Fuenquinos reste avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre les amis, on part en Iran. Oui, bon, alors les audiences montent, mais le budget sont non. Donc, on fait avec ce qu'on a. On part en Iran pour découvrir une athlète qui a dit non. Non, elle ne voulait plus représenter l'Iran à l'international, donc elle a fui. Notre expert sport, Jérôme Lacroix, nous dresse son portrait. Pour rappel, Jérôme Lacroix, c'est ce journaliste qui vous avait imité le pigeon la semaine dernière. Juste pour situer.
C'est bien.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Fiesta zygomatique, orgie neuronale, voilà le cocktail explosif de l'équipe sauvage. Deux heures pour départager les meilleurs journalistes d'Europe 1. Or, dans la hiérarchie journalistique d'Europe 1, il y en a un qui se pose là. Un champion toute catégorie, auteur la semaine dernière d'une perle sublime à l'heure d'annoncer le décès de Jacques Desange, qui avait coiffé de nombreuses actrices, dont Jean Seberg, dont le prénom, c'est vrai, s'écrit J-E-A-N. Mais bon, c'est quand même bien une femme, Gégé.
Jacques Desange, le coiffeur homme d'affaires, appréciait des stars. Il avait, par exemple, coupé les cheveux de Jean Seberg pour un bout de souffle.
Oui, Jean Seberg, Jeannot, comme l'appelait Romain Gary dans l'intimité quand il la prenait dans ses bras. Viens là, Jeannot, fais pas ton prude. Que de souvenirs. Jérôme Lacroix, opportunité vous est donnée de vous ressaisir aujourd'hui. Pour cela, vous nous racontez ce soir une histoire qui démarre où ? En Iran. Ah non, les gars ! Non, quand même. Mollo sur la musique. Jérôme.
Nous sommes le 25 août 2016. Écoutez cette foule plus que conséquente. On est à l'aéroport de Téhéran. Et ils sont tous là pour elle, pour Kimia Alizadeh, une gamine de 18 ans. Et elle est alors de retour des Jeux Olympiques au Brésil avec une médaille de bronze obtenue en taekwondo. Elle est alors, et elle est toujours d'ailleurs, la seule femme iranienne médaillée olympique. Le régime très fier saluait alors cette lionne de la terre d'Iran. Je cite Kimia, divine idole, l'idylle est loin. Aujourd'hui, Kimia Alizadeh, elle a eu de la fuite dans les idées. Elle est partie.
Le petit jeu de mots de Gégé.
Ah oui. Elle est partie. Elle a quitté l'Iran parce qu'elle refuse désormais de représenter son pays aux prochains Jeux Olympiques. Elle a fui pour échapper aux qualifications olympiques. Ces JO qui sont en juillet-août prochain au Japon. Et cette fuite, elle met l'Iran en émoi.
Alors pourquoi son refus ? Pourquoi est-ce qu'elle fuit ?
Je fais partie des millions de femmes opprimées en Iran, avec qui le régime joue depuis des années. Elle s'est longuement exprimée sur un réseau social, sous un texte, sous une photo d'elle en noir et blanc, le visage plongé dans les mains. J'ai accepté de porter tout ce qu'ils voulaient que je porte. Elle fait allusion au port du voile. J'ai répété tout ce qu'ils m'ont dit de dire, mais pour eux... Nous ne sommes que des instruments, poursuit Kimia Alizadeh. Elle dénonce l'utilisation de ses performances sportives, l'instrumentalisation par un régime qu'elle juge corrompu et rétrograde sur la condition des femmes. Je ne veux pas monter sur le podium du mensonge et de la corruption, poursuit-elle dans ses écrits.
Elle est gonflée, hein.
Et est-ce qu'on sait où elle est aujourd'hui, Jérôme ?
Depuis hier, oui, c'est confirmé. Elle est avec son mari aux Pays-Bas. Elle s'est exilée où elle s'entraîne aux Pays-Bas. Elle rêverait d'être naturalisée néerlandaise pour participer sous les couleurs des Pays-Bas aux JO l'été prochain. Mais c'est pour l'heure peu probable parce que les procédures sont très lourdes. Mais elle pourrait, pourquoi pas, concourir sous la neutre bannière olympique au sein de l'équipe des réfugiés apparue pour la première fois lors des derniers JO brésiliens.
Elle est courageuse, cette femme.
Effectivement, elle fait montre d'un certain courage. David Fuenquinos, vous, que les femmes inspirent tant, les personnages de femmes, on se souvient de Charlotte, est-ce que cette athlète iranienne, ça pourrait vous inspirer en roman ?
Là, complètement, ouais. Je trouve que vraiment, il y a beaucoup de force intérieure. Puis elle rompt aussi avec son pays, avec sa famille, son entourage. C'est extrêmement douloureux, j'imagine, de
et
faire
ça. Et elle répète, oui, absolument, qu'elle reste viscéralement attachée à son
bien
pays.
Bien sûr, quand on fait ça, c'est vraiment pas pour nuire au pays, c'est pour essayer d'exprimer une vérité qu'on ressent. Et par contre, c'est vrai que c'est symboliquement très très fort. Hein.
Merci en tout cas Jérôme Lacroix, je sens que votre chronique a fait mouche. Une bien belle chronique, à coup sûr de là-haut, Jean Seberg est fier de vous.
Oh non.
Europe 1.
À suivre, qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la télé et sur les écrans? C'est la question qui parfois suffit à faire exploser un couple. Heureusement, chaque jour, Eva Rock, notre expert média, vous guide dans la jungle des programmes. Eva, que Sandrine Bonner ne pouvait pas mieux résumer hier.
Assez attrayante et assez maligne pour se faire payer à manger sans coucher.
C'est tout. Ah, c'est les conseils télé d'Eva Rock arrivent juste après Shade. Trampoline sur Europe 1.
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
L'équipée sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1, continue avec notre invité d'honneur David Fuenquinos qui fête avec nous les bonnes audiences. Des audiences qui reposent, je crois, essentiellement sur ma capacité à fédérer mes équipes et surtout à donner des consignes claires.
Ok, ça marche. Je te dis... alors attends, je te dis... Ah non, bah si, clac, là on a de la musique et moi... Mais oui, non, ça ils ont été municipaux. Pourquoi je dis... Ben oui, ben non. Il faut que j'engueule la régie, ils comprennent pas ce que je dis.
Bah oui, ils sont nuls, c'est pas ma faute, moi j'explique clairement. David Fuenquinos, alors que deux de vos pièces sont présentées à Paris, je rappelle votre éclectisme créatif puisque vous avez la particularité de naviguer dans le milieu de la littérature, du cinéma et du théâtre. Déjà, est-ce que ce sont des milieux très différents? Vu de loin, on a l'impression que ce sont trois catégories différentes. Pour vous, c'est le même métier que vous exercez ou c'est très différent comme approche?
En termes d'écriture, c'est le même métier plus ou moins, c'est-à-dire qu'on raconte des histoires, même si la littérature, ça reste très introspectif, et c'est des mois de solitude. Théâtre ou cinéma, c'est beaucoup plus collectif. En ce sens-là, c'est une énergie totalement différente.
Mais surtout pour le théâtre, il y a un souci d'efficacité dans la comédie. Je m'imagine sur la réplique, vous pensez
quand
à la
réaction. Quand on écrit des comédies, oui.
C'est mieux. Bah, c'est évident. Si vous adaptez Charlotte au théâtre, par exemple, il y a les mollos sur la vanne. C'est ce que je vous donne, personnellement.
Non, mais c'est vrai que c'est mon objectif principal. J'ai envie vraiment que les gens rient et s'amusent dans la pièce. Et c'est vrai que les répétitions, là, on s'amuse beaucoup et c'est très, très drôle. Et c'est peut-être ce qui m'excite, évidemment, dans l'écriture de théâtre.
Alors, vous êtes extrêmement populaire. Les critiques de vos livres sont souvent très bonnes aussi. C'est très rare d'avoir les deux. Comment on atteint cette harmonie? Souvent, quand on a un succès populaire, on est mal vu de la critique.
Oui, j'ai eu les deux. C'est vrai que j'ai été très gâté et apprécié de la critique quand je vendais 2-3 000 exemplaires pendant 10 ans. J'étais à l'auteur Gallimard. J'ai eu plein de prix littéraires. Et c'est vrai que ce qui a changé ma vie, c'est le succès de La Délicatesse. C'était numéro un des ventes pendant un an et demi. Et c'est vrai que parfois, le succès peut modifier un petit peu le regard qu'on a sur un auteur.
Je vous posais la question en antenne. Écrire une série, ça ne vous botterait pas?
Je ne sais pas si j'en serais capable mais je pense que j'y viendrai.
Alors justement, le saviez-vous David, aujourd'hui, selon une étude de l'Université d'Oxford, on perd tous en moyenne 17 minutes chaque soir devant l'écran d'accueil de Netflix à s'engueuler avec son conjoint avant de réussir enfin éventuellement à choisir une série ou un film. Heureusement, il y a désormais 17 minutes de gagner avec vous, ma chère Eva Rock.
Oui, alors ce soir, France 2 a cette capacité incroyable de proposer un programme dont je ne comprends pas l'intérêt et un documentaire bouleversant. Ah. C'est-à-dire qu'à 21h, on va commencer avec Affaires conclues. Est-ce que vous connaissez cette émission qui a donné lieu à un sketch de Jérôme Commandeur?
Qu'est-ce que c'est que ça?
Ce sont des gens qui font estimer des objets pour les vendre ensuite à des antiquaires.
Bah, Mathieu Noël, il suffit d'allumer sur France 2, c'est 24h
sur
24.
Voilà, c'est 24h sur 24, c'est présenté par Sophie Davant. D'habitude, c'est l'après-midi et de temps en temps, ils ont droit à un prime time. Ouais. Donc là, ce soir, par exemple, ce sont des antiquaires qui achètent des objets et qui les revendent à des antiquaires.
Très bien.
Je ne comprends toujours pas l'engouement pour cette émission. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'échappe.
Les gens aiment bien faire les brocantes le week-end.
Peut-être.
C'est agréable. Mais de la regarder un programme où tu n'achètes pas le truc en vrai.
Pour moi, c'est le programme parfait pour s'endormir devant l'écran.
Or, mais il ne faut pas s'endormir, parce qu'après...
Ce serait dommage, exactement. Parce qu'après, Affaires conclues, il y a un documentaire qui est absolument bouleversant. Chaque nuit à Paris, il faut le savoir, il y a près de 300 mineurs qui dorment dans la rue. Ce sont des enfants qui viennent d'Afrique, d'Asie, et qui sont tous en attente d'une décision du tribunal confirmant le fait qu'ils sont mineurs. Parce qu'en France, la loi est claire, vous bénéficiez d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance quand vous êtes mineur. Mais avant que la justice ne décide de leur sort, eh bien, il faut héberger ces jeunes. Ce sont des bénévoles qui les accueillent le temps de quelques nuits grâce à l'association Paris d'Exil. Comme Agathe, elle est prof dans une école de commerce.
C'est-à-dire que par moment, je suis dans une classe en école de commerce à 1000 euros l'année, où je suis en train de confisquer le dernier iPhone parce qu'il n'a pas été mis sur mode silencieux. Et puis à la sortie de mon travail, je retrouve des jeunes à qui je vais aller donner un petit téléphone à 10 euros. Parce qu'ils dorment dans la rue et qu'on ne peut même pas les joindre si on trouve une solution pour les faire héberger. Je fais le grand écart.
Alors, je vous parle de ce documentaire parce que sans jamais céder au pathos, il donne la parole à ces hébergeuses, ces hébergeurs qui racontent leur colère alors face à cette situation qu'ils jugent injuste, leurs difficultés parfois à communiquer avec ces ados, mais aussi leur satisfaction quand l'un d'entre eux s'en sort. C'est absolument bouleversant, ça s'appelle Défi de solidarité, c'est à 23h20 sur France 2, mais sur la plateforme de France Télévisions quand vous voulez, bien évidemment.
Comme moi, il ne faut pas désespérer de France 2.
Exactement.
Si la première partie n'est pas bonne,
exactement,
la deuxième rattrape le coup. Ouais. Merci Eva, 17 minutes de gagné.
Europe 1.
À suivre, vous aimez écrire, vous avez même un fichier Word intitulé « Mon premier roman ». Et si vous réussissiez à vous faire publier, comment Nicolas Caro, le monsieur littérature d'Europe 1, qui lui-même est parvenu, à force de roublardise, à se faire publier, vous explique comment. Comme toujours, la clé du succès, c'est d'aller droit au but, comme dans une bonne interview.
Ça commence mal puisque le héros, Sam, ne s'appelle pas vraiment Sam. Il s'appelle Pierre en réalité. Mais comme il y a un autre Pierre dans la bande, on l'appelle Sam. Mais pourquoi vous compliquez la vie avec un héros qui n'a pas le bon prénom? Vous l'appelez Sam et c'est terminé.
Question annexe. Pourquoi poser une question si longue pour une réponse qui mécaniquement ne va pas changer l'histoire de la littérature? Bref, Nicolas Caro arrive.
Détrompez-vous. 16h18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h18h sur Europe 1, l'équipe sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe sauvage, 2 heures d'une compétition aussi rieuse qu'acharnée entre les plus valeureux journalistes d'Europe 1. Leur objectif, cette couronne en plastique à la finition si déplorable qu'aucun boulanger n'oserait même la proposer avec une galette des rois, sous l'œil complice et peut-être aussi empathique de notre invité d'honneur et parrain, David Fuenquinos. Alors David, je sais que votre roman Charlotte, inspiré de la vie de Charlotte Salomon, peintre allemande morte à Auschwitz à 26 ans, vous avez profondément marqué, voire obsédé à l'époque. Vous disiez, le roman ne met pas fin à mon obsession, c'est ma plus belle histoire d'amour d'écrivain, je ne peux pas enchaîner tout de suite avec un autre livre. Ça vous poursuit encore ce livre-là, qui a en plus été un succès?
Oui, c'est le livre pour moi qui a marqué le moment le plus important de ma vie littéraire. C'est vrai que le succès de ce livre a plus a permis aux gens de découvrir Charlotte Salomon. Le livre a eu le Goncourt des lycéens et ça me touche particulièrement parce que le Renaudot aussi, mais le Goncourt des lycéens fait qu'il est beaucoup étudié à l'école.
Il est étudié
en première,
au bac,
en seconde et au bac, ouais, beaucoup.
Ça, c'est la classe ultime.
Et au-delà de la classe, c'est vrai que ça me touche vraiment parce que les jeunes découvrent cette femme et qui est pour moi un exemple de courage et quelqu'un qui a transformé l'adversité en création littéraire. Et c'est vrai que je suis toujours le président de la secte Charlotte Salomon. Dès qu'il se passe quelque chose, on m'appelle. Les expositions, actuellement, l'exposition est à Londres. Il y a la préparation aussi d'un film qui, j'espère, va aboutir.
Alors, justement, comment, quand on est un écrivain à succès comme vous, établi, comment on prépare le coup d'après, le prochain roman? Est-ce que, au contraire, vous vous sentez délesté d'une pression parce que vous savez que, quoi qu'il arrive, vous allez être en tête de gondole à la FNAC? Ou au contraire, vous vous dites, waouh, là, j'ai mon public, il m'attend, je ne peux pas le décevoir. Il paraît que vous avez des romans, par exemple, en stock que vous n'avez pas publié, que vous...
Non, ah oui, avant de publier, oui, j'ai des romans de jeunesse qui sont vraiment à brûler, quoi. Mais
ah oui, non, ce que je veux dire, c'est que non, pas de comme
ah non,
qui
oh
dit qu'il
là, pas du tout.
Romans,
je sais pas comment elle fait, hein, avec 3 romans par an. Non, ouais. Moi, j'essaye d'écrire péniblement mon prochain roman. Et non, c'est vrai que j'ai tout connu. J'ai connu au début de ma carrière, j'avais assez peu de lecteurs, donc quand j'écrivais, je savais qu'on m'attendait pas énormément. Donc c'est aussi une pression un peu bizarre, c'est une pression de loose. Là, je sais que bon, le livre sera tiré à beaucoup d'exemplaires. Mais bon, aussi, on peut décevoir. Donc, moi, ça me donne une exigence encore plus forte.
Alors, David, on continue de parler de vous, mais un de nos chroniqueurs estime que parler de l'invité, c'est bien, mais parler de lui, c'est mieux. C'est dû à ses neuvetés dans Télérama. Je vous présente notre ultime concurrent du jour, spécialiste littéraire d'Europe 1, Nicolas Caro. Personnage à l'ego bien trempé, vendredi, Cadmerade a tenté de le titiller. Vedette ou pas vedette, Nico ne s'est pas laissé faire.
Moi, je suis pas particulièrement fan de sport, mais...
Ça se voit, d'ailleurs, un peu.
Oh, je suis affûté, quand même, eh oh.
Je me demandais si vous étiez de profil ou de face, en fait. Là.
Bon, je vous renvoie pas le compliment cette fois.
4-1, Caro 1, la balle au centre. Nicolas, ce soir, vous nous révélez vos ficelles pour se faire éditer. Et bien, en plus, vous êtes bien placé puisque vous vous êtes fait éditer. Je tiens à signaler la sortie de votre excellent livre.
Aujourd'hui.
Et vous les rangez comment, vos livres, préface, bon, si c'est pas la classe, de François ouais, Morel, c'est en plus, qui plus est, que vous retrouvez aux éditions La Librairie Vuibert. Je signale
merci
votre livre, mon cher Nicolas.
C'est très gentil. Moi, je voulais vous parler du mystère Henri Pic de David Fuenquinos, qui imaginait l'idée d'une bibliothèque remplie des manuscrits refusés. C'est un mythe lancé par l'immense poète américain Richard Brautigan, dont on a déjà parlé ici. Alors, pour Fuenquinos et Brautigan, c'est de la fiction, mais des lecteurs ont créé cette bibliothèque, pour de vrai, elle est à Vancouver, dans l'état de Washington, pas très loin de Seattle. Elle s'appelle la Brautigan Library. C'est l'un des amis du poète, John Barber, qui l'a construite. Elle abrite 300 livres jamais publiés et impubliables, d'ailleurs, pour certains, selon John Barber.
Bah justement, oui, s'ils n'ont pas été acceptés, c'est qu'il y a peut-être une raison.
Alors, pour certains, oui, ils sont simplement mauvais, mal écrits, mal foutus, inintéressants. Mais pour d'autres, et c'est tout l'intérêt de cette idée, pour d'autres, ce sont des génies incompris et ou trop en avance sur leur temps. On sait bien qu'il y a beaucoup d'écrivains reconnus qui ont commencé par essuyer énormément de refus. Brautigan a reçu des dizaines de lettres de refus. Proust a été refusé par Gallimard. R.J. Ellory, auteur de polar britannique, m'avait raconté un jour qu'il avait écrit 24 romans avant d'être publié pour le 25e. Mais c'est-à-dire qu'il a écrit et il a essayé de se faire publier 24 fois et ça n'a pas marché. Je lui ai dit, mais alors tous les romans qu'on lit maintenant de vous, c'est ces 24-là. Il me dit, non, j'ai tout jeté à la poubelle. Alors, pour se faire publier, il n'y a pas de recette miracle, évidemment, mais il y a quand même quelques astuces, quelques pistes. Il faut déjà envoyer un travail abouti. Envoyez pas 4 chapitres en se disant, bah, c'est déjà génial.
Sauf quand vous êtes David Feuilletier, à mon avis, il envoie 4 chapitres, même, c'est bon.
Le titre,
hop, la délicatesse 2, ah, parfait, David, c'est génial.
On verra si l'éditeur a le flair pour constater que je suis un génie ou pas. Il faut aussi se renseigner sur la maison d'édition, essayer de capter l'esprit de la maison d'édition, et puis
chacune a son identité.
Voilà, exactement, et pas l'envoyer n'importe où, ça sert à rien. Et puis se renseigner sur les éditeurs dans les maisons d'édition. Il y en a qui publient tel genre de texte ou tel genre de texte, il faut se renseigner un petit peu, et puis ensuite envoyer directement à l'éditeur en question. Il faut écrire une lettre en disant qui vous êtes.
Il faut écrire une lettre de motivation. Ouais, on n'envoie pas juste le manuscrit.
Non, qui vous êtes et qu'est-ce qu'il y a dans votre livre, quel est l'esprit de votre livre et pourquoi il est intéressant. Il faut se battre un petit peu. Mm-hmm. Et puis, alors, une fois qu'on l'a envoyé, alors, faut attendre un petit peu. Les éditeurs reçoivent des dizaines et des dizaines de manuscrits par jour. Donc, voilà, ils n'ont pas beaucoup de temps pour le lire. Ne vous formalisez pas s'ils ne vous répondent pas ou s'ils vous disent non. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de talent. Ça ne veut pas dire que vous êtes un génie non plus. Il faut juste attendre, continuer, recommencer encore et encore et encore, persévérer.
David, vous avez essuyé des refus, vous, au début de votre carrière ?
Oui, pas mal de refus. Et sur mon premier roman que j'ai envoyé, il a été refusé partout. Et j'avais totalement oublié qu'il me restait la réponse de Gallimard. Je me suis dit, évidemment,
ça va être non.
Et plusieurs mois après, j'ai reçu un appel du comité de lecture de Gallimard en me disant qu'un des éditeurs, Jean-Marie Lacleftine, avait lu et aimé. J'ai évidemment cru un canular. Et jusqu'au moment où je suis arrivé chez Gallimard pour rencontrer cet éditeur, j'avais toujours en moi la peur que, voilà, que ce ne soit pas vrai.
Merci beaucoup, Nicolas Carreau, pour vos conseils. Cette chronique vous permettra-t-elle de repartir avec la précieuse couronne ? La réponse ne va plus tarder maintenant.
Europe 1.
À suivre, la tension monte pour nos journalistes en compétition. Les jeux sont partiellement faits. Après la belle chronique de Nicolas Carreau, je lis sur le visage de Jérôme Lacroix une tension inouïe. La dernière fois que vous avez transpiré comme ça, Jérôme, c'était quand ?
Après une relation sexuelle consentie.
Oui, raison de plus pour changer de sujet. Et si, au lieu de passer chez Picard, vous cuisiniez un peu ce soir ? Pas d'excuses, avec Délices in Extremis, votre recette de dernière minute, non seulement c'est bon, mais en plus c'est facile. À tout de suite.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
La rigueur de l'info, la chaleur de l'humour. Vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures pour étoffer votre culture G tout en assouplissant vos zygomatiques. 2 heures également pour découvrir une star sous un autre angle. Aujourd'hui, on parle beaucoup littérature avec un écrivain à succès, David Fuenquinos. Je signale au passage que les écrivains adorent notre émission car ils savent que, question promo, j'assure, Maxime Chattam s'en souvient. Aujourd'hui, c'est Maxime Chattam qui nous accompagne. Il publie un roman Insectes chez Albin Michel. Qu'est-ce qu'il y a, Eva Roth ?
Vous montrez le livre à l'envers.
Aujourd'hui, c'est donc l'un des auteurs les plus lus en France que nous avons l'honneur de recevoir, David Fuenquinos, abonné, on peut le dire, au best-seller. On peut citer entre autres La Délicatesse, Charlotte, Vers la Beauté, Les Souvenirs. Le dernier s'intitule Deux Sœurs, c'est d'ailleurs vous qui en parlez le mieux.
Mon dernier roman s'appelle Deux Sœurs, donc c'est l'histoire de deux sœurs.
Génial ! Vous êtes intarissable ! C'est pourquoi on va plutôt parler théâtre. On revient à cette pièce, il y en a deux qui arrivent à Paris dans les mois qui viennent. L'une le 21 janvier, 10 ans après, avec Bruno Solo, Mélanie Page, et qui d'autre encore ?
Julien Boisselier, que
Julien Boisselier, oui, je sais que vous l'adorez. Pas forcément pour des raisons uniquement qui tiennent à son talent.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Voilà.
Je l'aime
alors,
bien, quoi.
David voilà. Fuenquinos, c'est une pièce où on parle évidemment d'infidélité, de tromperie, il y a un triangle amoureux. Vous êtes, vous, le compagnon idéal, David, car dans Pèlerin Magazine, à la question « Quelle faute pardonnez-vous aisément ?», vous répondez « L'infidélité ». Alors ça, il n'y a que deux solutions. Soit vous êtes un saint, soit au moment de l'interview, vous avez un truc à vous faire pardonner.
Ok. Donc c'est vraiment l'exégèse de toutes mes conneries, quoi, cette émission. Quoi.
L'exégèse
non,
de toutes vos conneries.
Non, mais en fait, je ne suis pas d'accord en plus.
C'est vrai, vous n'êtes pas d'accord
non,
avec vous-même
non,
vous
non, je ne suis pas d'accord avec
ça.
Moi-même.
Aujourd'hui, vous avez changé d'avis.
À chaque fois que je vais faire une interview, je me dis, mince, Mathieu Noël, dans 10 ans, il va me la ressortir. Tu te tais maintenant. Il faut bien répondre à quelque chose. Quelque chose quand on nous demande voilà, une question.
Non, mais on peut dire les fautes d'orthographe, par exemple. Oui, puis... C'est le truc.
Tiens,
le plus
très
classique.
La prochaine fois.
La prochaine fois, vous appellerez Eva, elle vous trouvera un truc soft comme ça.
Oui, mais alors franchement, je suis dans Pèlerin Magazine. Oui. Pour quelles fautes? Les fautes d'orthographe?
Oui, c'est un peu nul.
C'est plutôt Picsou Magazine.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous pensez écrire jusqu'à la fin de vos jours, comme un Jean d'Ormesson, par exemple? Est-ce que vous pensez à la postérité
alors,
déjà?
C'est un tacle et un truc dépressif. Quoi.
Exactement.
C'est
un tacle, dépression, tacle.
Il y a pas de juste milieu dans les questions.
Il n'y a aucun juste milieu. On vous a flatté tout à l'heure.
Non, mais c'est vrai, Mathieu.
Excusez-moi, je vous parle de la postérité.
Je pense que voilà, si on veut prendre un peu de hauteur, je pense que c'est le rêve de tout artiste ou toute personne voilà, qui vit de sa passion, c'est de pouvoir l'accomplir jusqu'à la fin.
Et finir à la Pléiade, ça serait beau.
De son vivant.
Oui, alors c'est pas forcément mon ambition, hein. C'est vrai que là, j'étais simplement en train de me dire oui, continuez à écrire.
Ah non, mais
c'est
moi,
gentil,
moi,
c'est de me rattraper.
Je vois grand
pourquoi pas le prix Nobel aussi.
Et moi, je vois, oui, exactement, pourquoi pas le prix Nobel. Il est en tout cas, les amis, notre bonne étoile en ce jour de résultat d'audience. David Fuenquinos, qui a vu naître cette émission, est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Je vous connais si bien. Pile au moment où vous allez franchir le seuil de votre pavillon dans quelques minutes, vous allez réaliser avec effroi que vous avez totalement oublié de passer faire les courses. Heureusement, Olivier Poult, notre expert en gastronomie de crise, est là pour vous sauver. Ce soir, dans Délices in Extremis, il vous livre la recette des pommes au four, dessert à l'issue duquel, affalé sur la table, vous direz certainement...
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme.
Non, certainement pas. Délices in Extremis arrive juste après les Enfoirés, à côté de toi, sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez toujours l'équipe est sauvage, l'émission qui brique vos neurones, cajole vos zygomatiques et trouve encore le temps de gâter vos papilles. Voici la séquence préférée des étourdis qui, comme moi, ont ce vilain défaut de penser que le repas va se préparer tout seul. Non, il faut mettre un peu la main à la pâte. Pour vous aider, voici Délices in Extremis, votre recette de dernière minute simple et bluffante, délivrée par Olivier Pouls qui tenait à vous présenter ses vœux pour 2020.
Vive la France, vive la République, vive le lièvre à la royale.
Bonjour Olivier Pouls. Ce soir, j'ai envie de dire, oh la belle pomme.
Bonjour Mathieu, bonjour David Fuenquinos.
Bonjour.
Et la belle pomme, vous l'avez devant vous. Regardez.
Non, je ne l'ai plus, je suis désolé, elle était trop bonne, elle était fabuleuse.
Un régal.
Bon. Dites-nous vite comment on fait ce truc-là.
C'est une demande express d'Eva qui m'a demandé hier soir. Elle m'a dit, fais-nous tes fameuses pommes au four. Alors, je lui avais donné une version un peu simple.
C'est un message codé. Vous avez mal compris.
Pas du tout, ça va pas, non?
Mais en fait, j'avais donné à Eva une recette assez simple pour être sûr qu'elle l'a réussi.
Ce qui n'est pas peu dire.
Et voilà. Je l'ai réussi, c'était très bon.
Alors, c'était les pommes au four au carambar.
Ouais.
Mais moi, je vous ai un peu amélioré le carambar, parce que le carambar, ouais, bon, c'est quand même un produit un peu issu de l'industrie. Hein. Il y a
vrai.
De l'huile de palme,
de ça
tout
nous,
ça,
monsieur.
Pas de ça chez nous. Donc là, je vous ai fait pommes au four, caramel au beurre salé maison, et surtout saupoudré d'un tout petit mélange noisette, amande, qui donne un petit côté un peu praliné, voyez-vous.
Il a l'œil qui brille quand il raconte
ça. Croquant. Alors, extrêmement simple. Extrêmement simple. Bon, des pommes, ça, jusqu'à présent...
Mais quelles pommes?
Il n'y a pas de difficulté. Des pommes, en général, moi, j'ai pris des galas, par exemple. On prend pas des pommes trop acides. On prend plutôt des pommes à cuire, qui sont des pommes avec une chair qui est plutôt tendre. Je ne les ai même pas épluchées. Je les ai simplement
mais c'est
passées
bien, ça apporte du croquant. Enfin, ça apporte une petite
Et puis surtout,
texture.
Ça va permettre de la tenir pendant qu'elle va cuire dans le four. Sinon, la pomme, elle a un peu tendance à s'écrouler sur elle-même. J'ai enlevé le trognon. Alors là, bon, c'est très simple.
Ah, ça,
un petit ustensile,
je vous en remercie.
Voilà, parce que... Et puis, je les ai mis tout simplement dans un plat, j'ai démarré la cuisson et pendant que la cuisson démarrait dans un four à 180 degrés, chaleur tournante.
Vous avez pris l'apéro. Parce que je vous connais. Un truc au four et ensuite on commence l'apéro. Il est 20h et à 22h, le truc est prêt. T'as eu le temps de te mettre 2h. T'arrives, t'es cuit.
Ah bon, alors après 3 bouteilles de cidre et un coup de calva.
Avec modération.
Voilà, et pendant ce temps, j'ai fait mon caramel au beurre salé. C'est enfantin à faire. 3 belles cuillères à soupe de sucre. Que vous mettez dans une casserole,
sucre
vous chauffez du sucre blanc. Mmh. Vous chauffez, vous allez voir, le sucre va fondre et très rapidement, il va acquérir une teinte couleur caramel assez jolie. Alors moi, j'aime bien qu'il n'est pas trop foncé parce qu'il est trop cuit et trop marqué. Dès que vous avez la couleur qui vous convient, une belle noix de beurre demi-sel dedans. Vous faites attention parce que le caramel est très chaud, le beurre, lui, est froid, et donc ça peut créer une petite tension.
Une réaction chimique,
voilà.
Comme entre Anissa Mbida et Sandrine Bonnet.
Voilà, exactement.
C'est le même effet.
Bien attention, vous mélangez tout ça, et puis vous allez recouvrir vos pommes qui vont continuer de cuire pendant un quart d'heure, et régulièrement, on va venir les arroser.
Toujours
les arroser. Pour bien les nourrir. 30-35 minutes de cuisson, et je termine par mon petit mélange pralin, voilà, que là j'ai acheté pour le coup, et qui va porter le croquant.
Le croquant gourmand. Voilà. David Foenkinos, vous avez goûté cette pomme. Vous avez croqué dans la pomme d'Olivier Pouls.
Je l'ai dévoré.
Vous
vraiment,
avez
je l'ai mangé une rapidité déconcertante.
Moi aussi.
C'est délicieux.
Délicieux, délicieux. Quand est-ce qu'on va dîner chez vous?
On va prendre une date, il n'y a aucun problème.
Prenons date. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
L'équipe est sauvage touche à sa fin. On a beau être formidablement bien avec David Foenkinos, il le sait, vient un moment où l'on doit se dire adieu. Pas vrai, David?
J'aime bien que les choses vivent. De toute façon, on n'est pas possédaire possédaire, non. On n'est pas en possession, pardon.
Oui, on sait rien. L'émotion, probablement. Qui sera élu chroniqueur du jour? À tout de suite pour la grande finale.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
C'est tremblotant d'émotion, les yeux embués de larmes de joie, que nous allons refermer cette 93e édition de l'équipe est sauvage et dire au revoir à notre parrain et invité d'honneur, David Foenkinos, très ému lui aussi au moment de découvrir le verdict. Il n'avait pas été bouleversé comme ça depuis... Oula !
Les mémoires de Greg le millionnaire.
Oh oui, au moins ! Au moins, au moins ! Qui sera élu chroniqueur du jour ? Lequel de nos journalistes vous aura le plus captivé cet après-midi ? C'est l'heure du quitte ou double. Ils ont chacun 10 secondes pour plaider leur cause. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous ?
Alors, je vous ai parlé des animaux en voie d'extinction. Bon, vous nous avez dit que vous n'étiez ni faune,
oui,
ni
flore. Oui, c'est mal barré pour vous, Anne.
Mais que tout passait mieux dans une ambiance sucrée. Donc, j'ai du chocolat.
Oh. Les voilà, pots de vin commencent.
Cacao 85% ou sésame grillé.
De l'achat d'invités, pourquoi pas. Voilà. Anissa Mbida, pourquoi voter pour vous et alors, vos télés du futur qui existent déjà aujourd'hui puisque j'ai déjà dans mon salon.
Même s'il a salopé ma chronique, vous savez comment la télévision est devenue incontournable aujourd'hui. Donc, autant qu'elle ne soit pas trop envahissante dans nos foyers.
La télé invisible, c'est ça que vous nous avez vendu aujourd'hui. Pour la modique somme de 90 000 euros. C'est vraiment toujours plus proche de vous sur Europe 1. Nicolas Carreau, pourquoi voter pour vous?
Eh bien parce que j'ai peut-être motivé un futur écrivain et donc j'ai ajouté du bonheur au monde potentiellement.
Ou alors vous avez donné envie à écrire à quelqu'un qui n'a absolument aucun talent, ou un concurrent, c'est pire de David, et là vous êtes tiré une balle dans le pied.
J'ai parlé de votre livre.
C'est vrai, c'est vrai. Jérôme Lacroix, pourquoi voter pour vous aujourd'hui?
Très modestement, je vais me permettre d'employer l'impératif avec vous, David Foenkinos. Ayez la délicatesse de me choisir.
Oh, j'aime bien les jeux de mots. Le petit plus, Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Alors, je sais pas si je vous le dis.
Comment? Non, bah, pardon, ne chipotez pas.
32% pour Nicolas Carreau, c'est lui qui a remporté 2 points des
deux
auditeurs.
2 points déjà pour Nicolas Carreau, qui est bien parti. C'est en ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui. Non. Ah, il va faire le grand chelem. Non. Je donne mon point à Jérôme Lacroix. Non, parce que c'était une belle histoire, importante.
Méchant, la cause des femmes, ça vous intéresse.
Je vous en prie, arrêtez de vous raconter. Mais vous dérapez, ma pauvre fille. Vous le savez ici, c'est l'invité qui a le dernier mot. David Foenkinos, mon cher David Foenkinos, qui, selon vous, parmi les journalistes d'Europe 1, mérite d'être élu chroniqueur du jour. Vous avez 3 points. Ce qui est énorme, c'est vous.
Quelle pression.
Qui avait la décision finale.
Alors, mon cher Nicolas Carreau, je ne peux pas voter pour vous parce que vous êtes le chroniqueur littéraire et je trouve que ça serait trop flagorneur. Anissé, je pense qu'il est très heureux dans sa vie sentimentale, donc il n'a pas besoin d'un point supplémentaire. Donc j'hésite entre la courageuse iranienne ou l'espadon chinois en voie de disparition. Et j'avoue que le chocolat a fait la différence.
Le chocolat
donc, voilà, je vote pour Anne Le Gall.
Anne Le Gall l'emporte avec son espadon chinois et surtout ses tablettes de chocolat pot de vin pour notre invité. C'est Anne Le Gall qui remporte donc la 93e édition de l'équipe est sauvage. On remercie David Foenkinos qui revient quand il veut. Vous êtes ici chez vous. En attendant, courez découvrir 10 ans après au Théâtre de Paris à partir, Eva, du 21 janvier. Et exactement. Puis Ami à partir du 3 mars au Théâtre de la Michaudière. Merci également à mes journalistes Eva Roque, Anne Le Gall, Nicolas Carreau, Jérôme Lacroix, Anissa Mbida et Olivier Pouls. Ne l'oublions pas. L'équipe est sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. La belle équipe est sauvage, votre rendez-vous incontournable des fins d'après-midi. Demain, vous recevrez le chef Olivier Rollinger. Très belle soirée à vous, Mathieu. Ciao.